Bienvenue au Podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le Podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelée SaaS, plateforme web, application web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Partageons trucs, astuces, histoires à succès, ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le Podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2ceo.com, aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, je discute de RevOps avec Simon Lemire de Lacosse. On parle entre autres des défis à l'intégration de la méthode RevOps, de standardisation de processus, d'intégration technologique et de mobilisation des humains. Avant que le podcast débute, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être avisé chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bon podcast! Simon Lemire, associé développement des affaires pour la firme Lacosse, qui est une firme d'intégration RevOps et intégrateur CRM. Merci, Simon, d'être des nôtres aujourd'hui. Comment vas-tu?
Salut, mon Joe. Ah, super bien, en pleine forme. Un gros merci de me recevoir sur ce podcast. J'apprécie grandement l'invitation.
On est super content de te recevoir. Puis pour faire la prémisse de tout ça, c'est que nos deux entreprises, OpenMind et la firme Lacoste, on a une très belle et grande expérience et même une spécialisation dans le secteur manufacturier. Et par l'entremise d'Investissement Québec, il y a un manufacturier québécois qui nous a mis en contact, qui m'a dit « Écoute, faut absolument que vous parliez ». Et on a eu la chance, Simon et moi, de prendre contact et d'apprendre à se connaître un petit peu dans les dernières semaines et de passer, entre autres, quand même beaucoup de temps au FabTech, au mois de septembre à Chicago. Donc, les deux, on était présents au FabTech et on s'est rendu compte, plus qu'on se parle, plus qu'on se dit « OK, je comprends pourquoi le manufacturier en question a dit qu'il fallait qu'on se parle. Nos offres sont complémentaires. On peut aider grandement les manufacturiers ici au Québec à aller plus loin, être plus profitable, plus performant, être dans chacun nos spécialités qui sont quand même très complémentaires au bout de la ligne. » À travers tout ça, j'ai enregistré avec Maxime Trottier d'Evolution un épisode sur le RevOps. La firme Lacosse et Simon et sa gang sont spécialisés là-dedans. Donc là, on s'est dit, pourquoi pas faire un épisode ensemble pour être capable de transmettre un peu la plus-value que Lacosse et la firme, donc la firme de Simon, est capable de livrer pour les manufacturiers. Et en même temps, on va traiter du sujet RevOps parce que c'est leur spécialité à travers ça, une de leurs spécialités entre autres. Donc, cet épisode-là n'est pas directement sur la lignée habituelle des épisodes de podcast qu'on sort, mais on voulait vraiment quand même l'enregistrer pour être capable par la suite de distribuer aux différentes organisations qui sont manufacturières ici au Québec et au Canada. Donc, ça fera partie d'un épisode qui est un peu hors série en deux épisodes habituels. Si vous êtes un manufacturier, écoutez ça, vous allez voir, c'est du bonbon ce que Simon va apporter comme contenu. Si vous n'êtes pas manufacturier, ben écoutez, d'après moi, il va y avoir quand même des choses très intéressantes que vous allez apprendre aujourd'hui qui vont vous permettre probablement de propulser votre organisation à un autre niveau, autant au niveau des ventes que des opérations, donc du RevOps à travers tout ça. Donc, voilà pour la prémisse de l'épisode qui sort un petit 5-10 degrés à côté là, de l'angle habituel du podcast Pivot, mais je suis convaincu que vous allez sortir avec quelque chose de positif si vous nous écoutez jusqu'à la fin. Donc, Simon, je te pose la première question. Qu'est-ce que le RevOps? Et on en a déjà parlé dans un dernier épisode, mais je t'invite à peut-être faire quand même une petite loupe, une petite explication pour les gens qui n'ont pas eu la chance d'écouter l'épisode numéro 35 avec Maxime Trottier de Devolution.
Absolument. Ben, tu sais, Maxime l'a quand même bien expliqué dans l'épisode 35, là. Donc, c'est sûr, je vous encourage à aller voir, à écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Puis comment aussi il l'a appliqué aussi dans le contexte de son entreprise. Donc, super intéressant. Puis, en guise de rappel, le RevOps, c'est le fameux acronyme anglophone. Puis, c'est pas nécessairement, c'est un nouvel acronyme, hein, qui devient de plus en plus populaire. Pas nécessairement un nouveau concept. Ça a toujours été là, mais devient de plus en plus important. Donc, ça signifie Revenue Operations. tu sais, grosso modo, c'est l'alignement des départements qui génère du revenu dans une entreprise dans le but d'être plus efficace, d'être plus efficient, puis de générer plus de revenus. Souvent, on a tendance aussi à vouloir faire plus, mais avec moins. Donc là, c'est l'alignement de ces départements-là, puis ça passe par le biais de processus, l'implantation de technologies, puis la mobilisation de l'humain pour justement adhérer à cette démarche-là, puis de maximiser l'efficacité, puis d'augmenter les revenus. Fait que le RevOps, Revenue Operation, opération de revenus, c'est vraiment cet alignement-là de ces trois grands départements-là, alignés avec les opérations, les équipes produits, les équipes TI également. Donc, c'est vraiment, au lieu de travailler en silo, c'est de travailler ensemble conjointement dans le but de faire plus avec moins. Donc, ça serait vraiment la meilleure définition que je pourrais dire. Évidemment, mais là, on pourrait rentrer plus concret dans chacun de ces composantes-là, puis dans chacun des éléments, dans le but d'être capable d'aligner ces départements-là ensemble.
Et là, quand on parle de silos, on voit les silos traditionnels qui se dessinent peut-être dans notre tête, qui est le silo, comme on disait, des ventes, le silo du marketing, le silo de la satisfaction client, le Customer Success Team, le silo des opérations. Donc, c'est beaucoup de silos que cette philosophie-là de gestion et c'est, je ne sais pas si on appelle ça un processus ou quoi que ce soit, mais un coffre à outils ou du moins des bonnes pratiques à suivre et à implanter, ça fait une bonne différence là, sur la satisfaction client, les ventes, puis d'accélérer à ce moment-là les ventes. Et là, toi, tu as vu beaucoup de cas dans le manufacturier où vous avez fait des interventions que ça a été extrêmement positif à travers tout ça, non?
Absolument, absolument. Puis tu sais, ce qu'on mentionne souvent aussi dans un premier temps, c'est de faire la différence entre la gestion un peu de ces opérations-là, la gestion de la relation client, on va dire, puis la perception, donc l'expérience client. Donc, il y a quand même une différence entre les deux qui sont conjointement liés. Donc, la gestion, mais ça va être basé sur des processus à l'interne, donc le fameux processus lead to cash, donc c'est du prospect qui va rentrer dans son entonnoir, si on veut, jusqu'à temps qu'on l'envoie en production, qu'on va facturer. Des fois, dans certains cas manufacturés, on a de la livraison, tout dépendamment, encore une fois, du modèle d'affaires. Donc, il y a quand même, c'est un long processus qui est pris en charge, donc on doit assurer cette gestion-là qui va aider inévitablement la perception, donc comment le client va interagir avec l'entreprise, donc qui est le fameux CX, donc l'expérience client au bout du compte. Puis chez un manufacturier, si on le prend en exemple, parce qu'évidemment, on est expert là-dedans, puis c'est un peu le sujet du jour, les processus peuvent être très complexes. Donc, pas juste la productivité, pas juste les opérations manufacturières, mais tout le côté aussi d'interaction avec le client dans un premier temps. Selon les modèles d'affaires, des fois, on les custom, donc on fabrique de façon custom certains produits. Il y a de la validation avec l'ingénierie, il y a une gestion d'inventaire, il y a l'approvisionnement qui est à prendre en compte. Donc, juste ces éléments-là qui sont des défis à gérer. Lorsque c'est pas bien aligné dans le processus de gestion, ben là, on communique moins bien avec le client, on n'est pas efficace, il y a des risques d'erreur. Donc, tout ça ensemble, ça fait qu'on n'est pas nécessairement efficace. Puis là, ben on maximise pas nécessairement la rentabilité puis les opérations pour générer du revenu dans l'entreprise. De là où la démarche RevOps, où est-ce qu'on standardise les processus, on intègre les technologies pour venir nous outiller à faire plus avec moins. Et l'humain qui est derrière est mobilisé par cette démarche-là. C'est là où on va évidemment capitaliser sur des gains fondamentaux.
Et là, avant d'aller plus loin, deux choses. La première, si vous nous écoutez et ça sonne un peu comme de la musique à vos oreilles, que vous êtes manufacturier ou même dans un autre domaine, les services de Simon sont à l'heure actuelle subventionnables avec la subvention PECAN pour un Audi. Donc, n'hésitez pas à regarder ça avec Simon si vous voulez faire un petit tour dans votre organisation. Je l'ai dit tout de suite parce que on va couvrir beaucoup d'éléments dans le podcast aujourd'hui, mais il y a vraiment quelque chose d'intéressant que le gouvernement donne un coup de pouce pour aider des spécialistes comme Simon à venir vous donner un coup de pouce dans vos organisations, là, dans vos entreprises directement.
Donc ça, c'est à fait.
Tu voulais rajouter quelque chose, Simon, je pense?
Ben, je pense que c'est un bon point, le PECAN aussi, parce que faire cet audit-là, si on veut des processus, faire un plan numérique, il l'a à différentes sauces. Puis toujours, tu sais, posez-vous la question, vous êtes un manufacturier, vous êtes en train d'écouter un peu ce podcast-là en ce moment. Nous, on est experts RevOps, donc il y a les opérations de revenus qui sont en amont. Puis souvent, on va parler des technologies qui vont être liées à ces processus-là, si on veut. Mais tu sais, si la priorité dans l'entreprise, c'est la chaîne d'approvisionnement, c'est vraiment les opérations manufacturières parce qu'on est zéro efficace, temps machine, l'usine, ça fonctionne pas bien. Mais tu sais, la priorité sera plus axée sur une firme de génie conseil au niveau des opérations de l'excellence opérationnelle, si on veut. Mais c'est sûr que si, de l'autre côté, tout ce qui génère du revenu d'entreprise, donc le département marketing, vente, service, n'est pas aligné, puis on est capable d'en prendre, puis on est juste où le flux opérationnel n'est pas là, puis à ce moment-là, oui, on peut aider, mais quand même une question de priorisation. Puis oui, le Pécan est un super, super, super beau beau programme qui est offert, là, qui subventionne une grande partie de cet audit-là dans un premier temps. C'est un bon point de vue.
Et là, on veut couvrir les défis et la démarche d'intégration de RevOps. Avant, par contre, de tomber sur ces deux choses-là, je pense que tu as trouvé des statistiques qui viennent d'une étude qui est quand même récente de l'impact de ce que ça peut avoir, là, de vraiment relever ces défis-là puis faire une implantation RevOps dans son organisation, là.
Non, 100%. BCG ont sorti la plus récente étude, si on veut, là, qui est Boston Consulting Group, là, une grosse firme de consultation. Puis ils démontrent un peu comment, si on veut, une démarche RevOps va bonifier, optimiser, obtenir des gains significatifs dans la productivité des ventes. Donc, ultimement, dans les opérations aussi go-to-market, c'est là où généralement, on va avoir le plus de gains. Donc, on a sorti là peut-être quelques stats là, pour mettre un peu de lumière sur ce qu'on va faire, ce qu'on va parler aujourd'hui. Mais il y a quand même une augmentation significative, de 10 à 20% reliée à la productivité des ventes pour les entreprises qui vont adhérer à une démarche RevOps. Donc, encore une fois, je le répète, aligner vraiment les départements marketing, vente, service, donc les départements qui vont être aussi essentiels pour le go-to-market. Donc, si on veut aller chercher un nouveau territoire, une nouvelle part de marché, si on veut, si on a un nouveau produit à mettre en marché également. Donc, en adhérant justement à une démarche RevOps, on est capable d'aller obtenir des gains de 10 à 20% pour la productivité des ventes. Puis aussi de 100 à 200% du retour sur investissement par rapport au marketing numérique. Donc, quand même, le marketing numérique, c'est pas juste la pub payante, mais c'est aussi tout un peu les efforts qu'on va faire derrière le site web, derrière aussi les initiatives d'efforts trade show numérique. Tu sais, il y a les canaux traditionnels, mais souvent, on va vouloir adhérer à une certaine campagne en amont. Donc, des entreprises qui souhaitent aller go-to-market, donc d'aller chercher vraiment de nouvelles parts de marché. Si on n'a pas un RevOps uniforme et optimal à l'interne, souvent, on va mettre de l'argent dans le vide, ça c'est certain. Donc, c'est pour maximiser ce retour sur investissement-là, c'est là où l'étude démontre quand même de 100-200% de ROI là-dessus. Puis, au niveau de la satisfaction des clients internes, donc ça aussi, c'est quand même assez important. Donc, nos clients sont extrêmement importants. Puis, si on peut optimiser cette expérience-là en adhérant à une démarche RevOps optimisée, BCG mentionne qu'il y a une augmentation de 15 à 20% de satisfaction au niveau de la clientèle interne. C'est quand même des stats intéressantes qui prouvent que c'est pas dans le négatif, c'est dans le positif. Donc, pourquoi pas y adhérer? Pourquoi pas faire un premier pas aujourd'hui?
Et c'est intéressant que ces statistiques-là viennent d'une firme de sondage et consultation indépendante. Là, c'est pas, en tout cas, à première vue, biaisé comme chiffre. Mais avec les minimums qui sont parlés là-dedans, généralement, ça prouve qu'il y a un retour sur investissement extrêmement rapide. Et ma perception, le RevOps, c'est un terme qui s'en vient de plus en plus en vogue. Beaucoup de gens ne connaissent pas c'est quoi, ou du moins ne maîtrisent pas c'est quoi, ils ne l'ont pas implanté dans leur organisation. Mais je pourrais dire qu'aujourd'hui, moi, ma perception, le terme RevOps est l'équivalent du terme ERP d'il y a 5-10 ans. Tout le monde en avait entendu parler, ils savent pas c'est quoi. Puis à un moment donné, tu te rends compte que tu peux pratiquement pas vivre dans ton organisation sans un bon système comme un ERP pour aller te propulser vers l'avant. Je pense que ça va devenir une norme, le RevOps, dans les X prochaines années devant nous. Les premiers qui vont l'avoir implanté avec force et qualité, je pense qu'ils vont être des joueurs dans le marché qui vont se différencier beaucoup des autres compétiteurs, donc d'aller chercher rapidement des parts de marché et rentabiliser cet investissement-là. Fait que j'ai l'impression que pratiquement tout le monde va devoir le faire, mais les premiers vont avoir le plus grand gain. Donc, n'oubliez pas ça dans l'écoute du podcast aujourd'hui. Si vous êtes les premiers, vous allez chercher un gain supplémentaire sur pas mal tout le monde dans l'industrie qui ne l'ont pas encore fait ou du moins qui vont tarder à le faire. Là.
Ah, tout à fait. Pour ajouter de quoi là-dessus, parce que c'est vraiment un bon point, tu as mentionné le parallèle avec le ERP qui date quand même de longtemps, même le CRM, tu sais, le système de gestion de la relation client, ça fait longtemps que ça existe. Mais là, c'est comme essentiel par le comportement du consommateur, de l'acheteur qui a changé drastiquement aussi, je dirais, depuis au moins 5 ans, puis évidemment, la pandémie a accéléré cette transformation numérique-là et ce changement-là dans le comportement de l'acheteur ou du consommateur. Mais je fais même un parallèle au restaurant, tu sais, où tout le marché de la restauration, qu'avant, tout le take-out, tout le côté, ben là, Uber Eats est venu, mais il y a beaucoup de restaurants qui n'ont pas nécessairement opté vers comme son adaptation pour le take-out puis pour justement des plateformes qui existent, même titre qu'il y a certaines boutiques qui ont sur rue qui n'ont pas nécessairement adapter leur modèle d'affaires les dernières années. Boum, des fois, tu as des moments, contexte sociopolitique qui arrive, comme une pandémie, comme n'importe quoi. Il y a des scénarios qui se passent aussi en Europe qui peuvent venir bousculer. des fois certains comportements, des fois la chaîne d'approvisionnement dans le contexte manufacturier qui n'ont pas fait ce changement-là en amont, puis là sont pris à adhérer à un retard qui est vraiment significatif en ce moment. Puis là, ben c'est beaucoup plus difficile de pédaler puis de réussir à rattraper la compétition. Donc, en effet, c'est un bon point, le mot d'ordre, adhérez-y maintenant, étape par étape. On dit en anglais « baby steps », mais au moins faites un pas vers l'avant d'un point de vue optimisation de vos opérations, numérisation de vos opérations, puis mobiliser l'humain à vouloir innover, pas de rester statu quo. Parce que le jour où ça va shifter, ça commence déjà à shifter quand même pas mal, le compétiteur va le faire, vous avez pris un petit peu à ce niveau-là. Fait que c'est un beau mot d'ordre, Joe, j'aime bien ce que tu dis.
Et je vais rajouter un autre coup de marteau sur le clou, c'est que ça va être le même effort à faire dans 5 ans qu'à le faire aujourd'hui, mais vous allez profiter du gain pour les 5 prochaines années avant la compétition. Donc, le ratio effort versus gain est complètement décuplé. Donc, n'oubliez pas ça dans votre formule ou votre équation de regarder ça. Le RevOps, en tout cas, de ce que je vois et de ce que j'entends, n'est plus dans un stade de, en anglais, early adopters, dans le sens que c'est mature. Là. Il y a vraiment des concepts précis. Il y a un effet de levier dans l'implantation directe. Il y a une communauté derrière tout ça. Il y a des bons intégrateurs et des bonnes personnes comme Simon et Lacoste qui peuvent venir vous propulser vers l'avant. Fait que vous, si vous décidez d'y aller de l'avant, vous n'êtes pas dans les premières personnes qui vont servir de test puis de dire, bon, ben on itérera pour la prochaine version. On est là, là, c'est nature. Puis, ça demande juste à ce que les gens ouvrent leur esprit, ils soient exposés et décident d'aller de l'avant avec ces concepts-là.
Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez « suis-je prêt à le faire? » Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini-questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com/évaluation, D-E-V, le chiffre 2, CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode en cours.
Tout à fait. Non, c'est exactement ça.
Et maintenant, on saute dans le côté les défis d'implanter du RevOps dans le secteur manufacturier. Tu as les deux mains dedans, Simon. Parle-nous un petit peu de ça, de qu'est-ce que tu vois et à quoi faut que les gens soient préparés, à quoi les gens faut qu'ils réfléchissent par rapport à ces nombreux défis-là, parce qu'il n'y a rien qui est facile, sinon tout le monde le ferait, même si le gain est là au final.
Tout à fait. Non, ça, il y en a plusieurs défis. On ne pourra pas tous les nommer nécessairement. J'ai ciblé vraiment les principaux. C'est sûr, dans un premier temps, même dans mes notes, je ne l'avais pas nécessairement mentionné, mais il me vient là. Le premier gros défi, c'est l'humain, en fait. C'est la mobilisation de l'humain. Puis même si on est habile avec la technologie, même si on a un sens à l'innovation, on veut jamais nécessairement changer drastiquement de façon de faire. Penser au plus simple. Là, on utilise, par exemple, la suite Gmail pour le personnel. Puis là, avec le travail, on est sur Office 365. Je suis pas habitué, justement, à l'interface Microsoft. Penser à, j'étais habitué d'utiliser un MacBook avec Apple. Faut que je change pour un Windows. C'est à ce niveau-là, c'est un PC. On n'aime jamais devoir s'adapter à une autre façon de faire, mais ça vient avec le temps. Puis après, c'est tout déjà derrière le désir à vouloir innover au bien du collectif, au bien d'avoir des processus standardisés, puis au bien d'avoir des outils qui vont nous aider. Fait que le premier gros défi dans le secteur manufacturier, souvent, c'est qu'on est bien un peu dans nos bottines. On est bien dans la façon de faire, puis on se dit, ça a toujours marché de même. Fait que pourquoi changer, tu sais? Erreur de penser de cette façon-là, parce que ceux qui vont avoir des gains significatifs, ceux qui vont déclasser, si on veut, sa compétition, c'est ceux qui vont s'optimiser, innover avec une nouvelle technologie, ils vont être capables d'aller chercher une belle part de marché plus facilement, de façon plus efficace, tout en répondant au comportement d'acheteur qui va changer, qui devient, entre autres, plus difficile à gérer. Donc, si on pourra en parler un petit peu plus tard, mais c'est extrêmement important d'avoir ce désir-là dans un premier temps, qui est souvent un défi chez le manufacturier, c'est de mobiliser son équipe à adhérer à une démarche RevOps, puis à justement un sens à l'innovation, puis vouloir un peu changer sa façon de faire. Donc, ça serait le premier gros défi que je verrais, ça serait ça, surtout dans le secteur manufacturier.
Et la fameuse résistance au changement de l'humain, je trouve ça tellement pertinent parce que autant en technologie que de ton côté, du côté RevOps et tout le reste, c'est toujours l'humain qui va faire une grande différence si le projet va être un succès ou va être un échec. Puis moi, j'aime toujours amener la théorie des calories mentales. Parce qu'un changement provoque deux choses, de l'anxiété et de l'effort à faire. L'anxiété chez l'humain nécessite et gruge des calories, mental. Et de faire un effort pour s'adapter à quelque chose de nouveau, ben ça consomme encore des calories mentales. Donc toute la théorie là de si on amène à notre gang quelque chose qui demande des calories mentales, ben ça vient leur enlever d'énergie. Puis là, ça, les gens vont se braquer contre ça. L'humain est fait pour essayer d'y aller avec le moindre effort possible. Et là, on leur crée à ce moment-là une charge. Fait qu'il faut toujours bien préparer la gang. Faut toujours les embarquer là-dedans, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais effectivement, le premier défi dans ce genre de cas-là, on change les processus, on change les procédés, on brasse des équipes. Et là, ça demande des calories mentales pour l'équipe à dégager ou à digérer. Donc, premier problème, premier défi. Maintenant, non, qu'est-ce que tu vois d'autre, Simon, comme défi?
Hein? Non, c'est un bon point. Puis on pourra venir au conseil après pour venir contrer un peu ce défi-là ou du moins venir aider à supporter certaines équipes internes. Là, on va parler du leadership un petit peu plus tard, mais un autre défi aussi, c'est un peu cette complexité-là dans les processus. Puis là, il y a comme une nuance. Souvent, on va penser qu'on est bien unique comme manufacturier, puis on a vraiment l'unique façon de faire. Généralement, les modèles d'affaires, ils vont se ressembler. Fait qu'il y en a qui vendent, il y a un réseau de distributeurs, il y en a qui vendent direct, il y en a qui vendent même aux consommateurs direct. T'sais, il y en a qui sont dans plus le côté ingénierie pour après procéder à la commande. Il y en a d'autres que c'est des produits standardisés. Il y a différents types de modèles manufacturés qui existent, puis vous pouvez vous retrouver dans un plus que dans l'autre. Il y en a qui sont jumelés, comme j'ai mentionné. Mais ça reste quand même complexe au final, comme j'ai mentionné. Des fois, on a de la validation à faire. Des fois, on a des systèmes opérationnels existants, mais qui sont à changer. Il y a une façon de faire qui est faite, que l'on veut optimiser, mais ça va nécessiter pas juste un changement au niveau humain à l'interne, mais ça va nécessiter un changement aussi technologique. Donc, cette complexité-là de processus peut être un immense défi dans le manufacturier parce qu'il y a plusieurs facteurs extérieurs aussi qui peuvent venir un peu brouiller les cartes dans certains process qu'on va vouloir optimiser à l'interne. Donc, tu sais, puis encore une fois, je reviens un peu à l'humain, mais en lien avec les processus, je reviens à on a toujours fonctionné comme ça, donc ça va rester de cette façon-là, puis c'est un peu la règle du pouce. Puis oui, on a tendance à rester un peu dans ce mindset-là, mais cette complexité-là de processus, ultimement, c'est de la simplifier, puis il y a manière quand même à y adhérer. Donc ça, à ce moment-là, c'est un autre défi souvent qui est quand même connu, parce qu'on ne vend pas nécessairement des choses peu complexes. Des fois, c'est quand même assez complexe derrière la fabrication de certains produits puis dans le processus d'achat d'un acheteur B2B, donc business to business dans ce contexte. Donc ça, c'est important. Puis en lien avec ça, il y a aussi toute la variabilité de la demande qui peut être importante. Donc il y a des zones manufacturées qui n'ont jamais de temps mort. Donc sur 12 mois par année, il y a à peu près une centaine de soumissions qui est générée par semaine, par mois, peu importe. Puis écoute, ça roule à flot. Fait que là, on va viser plus de l'efficacité. Il y a d'autres manufacturiers comme des filles qui vont avoir peut-être des temps morts d'à peu près un trimestre ou un mois où il va avoir, par exemple, un changement de modèle d'affaires parce que, bon, l'approvisionnement dû à certaines situations en Europe impose qu'il n'y a plus nécessairement un X produit ou X composant qui est offert sur le marché. Fait que faut se revirer de bord. Puis là, ben à ce moment-là, il y a un temps mort sur 3-4 mois. Puis des fois, c'est des contextes qu'on est capable de prévoir ou pas prévoir. Donc, avec la chaîne d'Adro, au niveau des ventes, il y a comme une peu imposé une variabilité de la demande. C'est là où les prévisions vont être intéressantes. C'est là où même le prédictif potentiellement peut être intéressant. Donc, c'est certains défis qui existent où est-ce que le RevOps va venir aider à, de un, au niveau de la complexité des processus, standardiser la démarche, centraliser certaines données au niveau de notre infrastructure, puis être capable de mieux gérer un peu cette variabilité au niveau de la demande, puis au niveau de l'inventaire, puis au niveau de l'approvisionnement aussi en lien avec les ventes. Fait que c'est des beaux défis que souvent vous allez peut-être vous retrouver dedans, qu'on va penser à, ben là, on va juste axer nos efforts sur la chaîne d'appôt. Attention, il y a quand même un gain à prendre en compte d'un point de vue marketing, banque, service client, qui est quand même essentiel en amont pour continuer à servir nos clients, pas les perdre, puis assurer la viabilité de l'entreprise en cours de route. Donc ça serait d'autres quand même composantes assez intéressantes à prendre en compte d'un point de vue défi manufacturier.
Puis on pourrait même penser à dire qu'avant de s'attaquer à la chaîne d'approvisionnement ou de production, si on gère mieux les ventes, on gère mieux les attentes avec les clients, on négocie des fois des délais de livraison qui sont différents, ça peut venir lisser peut-être la courbe de variabilité, pas nécessairement de la demande, mais de la livraison à faire. Donc, on travaille le bottom line à ce moment-là. Donc, il y a peut-être quelque chose à travailler en amont avant de dire on va travailler sur le côté production ou il y a des choses, j'imagine, qu'on peut travailler à travers tout ça.
Tout à fait.
Maintenant, on parle également d'un autre défi slash exemple concret, c'est qu'il peut y avoir différentes technologies qui sont implantées dans l'organisation, différents logiciels.
Oui, puis ça, c'est un autre gros défi, puis je l'entends de plus en plus dans les rencontres, même en amont. Il en existe là des acronymes, on pourrait tous les nommer. Puis à travers ces différents acronymes-là, il y a des technologies spécifiques. Puis là, ben, ça va être en fonction des besoins, des fonctionnalités et tout. Donc, c'est sûr qu'un autre défi, puis là, c'est toute entreprise confondue, je pense que vous allez vous retrouver dans ce défi-là, c'est qu'il existe tellement de types de technologies, de laquelle qu'on implante, laquelle va être la meilleure pour nous autres. Ça, c'est-tu encore bon, ça, c'est-tu pas bon? Puis après, ben, c'est facile de dire qu'une technologie est pas bonne ou la façon, donc, des fonctionnalités sont disposés, c'est pas bon pour nous, mais ça a-tu été implanté correctement? C'est-tu en fonction des besoins? Avez-vous besoin de ça, cette technologie-là, ou c'est juste un wish list? Donc, tu sais, pour pas les nommer, je veux dire, tu sais, souvent, on va avoir des fichiers Excel un peu disparates. Fait que là, boum, déjà là, c'est un défi parce que c'est statique, un fichier Excel. Autant que ça peut être la façon dont on procède depuis 20 années, mais un fichier Excel, la donnée, elle est stagnante là-dedans, tu sais, puis c'est beaucoup d'entrées de données manuelles. Même si on a des macros à côté, ça reste quand même pas la meilleure solution pour rester dynamique, puis après, à peu près des tableaux de bord, on va y en venir. Mais tu sais, on a des smart sheets, on a différents CRM, donc système de gestion de la relation client. On a des ERP à l'interne, des MRP, donc tout ce qui est Enterprise Resource Planning, donc tout ce qui est système opérationnel pour gérer un peu ces opérations, donc les ressources. Après, il y en a qui ont pas nécessairement d'ERP, mais ont des systèmes comptables, des fois un petit peu plus archaïques, des fois plus modernes, des fois ça fait pas l'affaire, faut changer. Des fois, on a des configurateurs de produits intégrés, des fois qui travaillent en silo, des systèmes de gestion de projet. Bref, je pourrais tous les nommer, mais tous ces systèmes-là, des fois, c'est lequel va venir répondre à X besoins. Puis, ça va-tu être bon? Finalement, moi, j'aimerais bien ça tomber dans le prédictif tout de suite, mais on travaille juste avec des fichiers Excel à l'interne. Fait que, on pourrait venir se plugger, mais on reste encore une fois un peu tout statique. Fait que, l'utilisation des différentes technologies, pour résumer, peut être un gros défi parce qu'il en existe tellement. Puis souvent, on va être axé très fonctionnalité. Puis ça, j'ai quand même un point plus tard dans la démarche à mentionner par rapport à ça, qu'on oublie de quelle manière on opère actuellement. Puis on oublie de faire ce travail-là, l'état actuel, état souhaité. Puis après, d'aller cibler les bonnes technologies pour venir nous aider. Mais souvent, c'est un défi parce qu'il en existe tellement qu'on peut se perdre facilement dans ce lot-là. Et cet amas-là de technologie de transformation numérique au sens large.
Et sous cet aspect-là, c'est là que nos organisations OpenMind et Lacoste s'entrecroisent. Quand il y a beaucoup de systèmes qui, entre autres, ne se parlent pas, on a la capacité chez OpenMind de créer des ponts de données, créer des API et des systèmes centraux pour rassembler la donnée, qui fait qu'on est capable d'avoir un processus à ce moment-là qui est plus fonctionnel dans l'organisation. Et c'est là qu'on est capable de travailler ensemble, nos deux organisations, pour amener le manufacturier à un autre niveau. Je pense que vous voulez parler d'un aspect de mesure de la performance avant de terminer pour les défis. Hein?
Oui, puis souvent, ça revient un peu au fichier Excel, ça revient même d'un point de vue processus. Fait que tout est conjointement lié, vous allez le voir, mais souvent, on veut avoir accès à des tableaux de bord. Ça devient de plus en plus populaire aussi, puis essentiel pour être capable de prendre les meilleures décisions d'affaires, donc le fameux BI, donc l'intelligence d'affaires. Faut pas quand même oublier que pour obtenir cette intelligence-là d'affaires, obtenir ces données-là, faut qu'ils viennent de quelque part. Puis après, c'est beau de dire faut qu'ils viennent de quelque part. S'ils sont entrés de la mauvaise façon, ces données-là, ou si le processus va pas recueillir la bonne donnée, tu vas avoir un beau tableau de bord avec du vert, du rouge, du orange, mais tu n'auras pas nécessairement la meilleure donnée ou la bonne donnée qui va être « accurate », désolé de l'anglicisme, mais qui va être la bonne donnée pour porter une certaine décision d'affaires. Donc, on veut souvent des tableaux de bord. « J'aimerais bien savoir ça. » Il faut quand même faire un pas de recul puis de revoir bon, de quelle façon cette donnée-là va être rentrée dans le système, de quelle manière on va interagir avec. Puis, ultimement, on va la pousser en tableau de bord. Puis, ça va devenir essentiel pour toute entreprise, mais le manufacturier encore plus, je dirais, dans le but justement de mieux gérer ses opérations, la chaîne de production par la suite, l'inventaire, la chaîne d'appôt est capable de forecaster, donc d'obtenir plus de prévisions sur les ventes, puis ultimement de répondre aux clients dans les meilleurs délais, mais aussi avec la bonne information. Donc vraiment la mesurer la performance des équipes internes, mais aussi par rapport à notre gros funnel lead to cash, devient de plus en plus essentiel, est un défi actuellement, des fois dû aux technologies modernes, dues à la mauvaise qualité de la donnée, puis au processus non standardisé. Donc c'est ce que je voulais mentionner qui est quand même essentiel.
Et nous, réellement, sur le terrain, là, quand on parle avec des manufacturiers et on leur demande, avez-vous l'ensemble des tableaux de bord que vous avez besoin pour bien opérer puis être capable d'être un peu prédictif aussi de ce qui s'en vient? Sur 100% des organisations avec qui on parle, pratiquement tout le monde, il leur manque certains tableaux de bord ou non peu ou pas de tableaux de bord. Et là, tout le monde est intéressé à ce qu'on dédie des gens qui sont spécialisés chez nous en Power BI puis en intelligence d'affaires. Mais quand on se met à creuser, il manque la donnée, il manque la collecte de données. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on va venir créer ces interfaces-là ou aller la chercher dans d'autres systèmes. Mais tout le monde pense que c'est beau, il me faut des tableaux de bord, j'en fais, c'est réglé. Mais tout le monde oublie que faut la donnée initialement, il faut qu'elle soit bien structurée puis il faut qu'elle soit viable et disponible. Et c'est souvent là que le bas blesse là, quand on rentre dans les organisations.
Absolument, absolument.
On parle ensuite de démarche RevOps donc, et de standardisation des processus.
Oui, mais tu sais, une démarche RevOps, après on va vouloir, c'est ça, on rentre en concret. Fait qu'on sait un peu qu'est-ce que RevOps, on sait quels sont les défis. Souvent, et puis il y en a d'autres, là, en passant, j'ai pas tout nommé, puis sûrement vous n'avez, puis on vous encourage à partager vos défis, puis après on va les adresser, c'est sûr et certain. Mais là, après, c'est souvent rentrer concret. OK, parfait. Par où on commence? Tu sais, comment on établit une démarche RevOps? Comment on aligne nos départements ensemble dans le but d'augmenter, d'accroître l'efficacité, dans le but de faire, d'accroître les revenus également, capable de gérer un plus grand volume. Donc, tu sais, à ce niveau-là, la démarche RevOps, moi, je la segmente, du moins chez Lacoste, on la segmente vraiment en trois grands piliers. Voyons-le comme ça, là, trois grands segments, trois grands piliers. Dans le premier cas, c'est la standardisation des processus. C'est souvent négligé. On va être, comme j'ai mentionné, tech focus. Donc, on va être aligné uniquement sur les fonctionnalités d'une plateforme. Donc, on va magasiner une plateforme. On va dire, vas-tu répondre à ça, ça, ça? Puis on va se faire une grosse liste, puis un cahier de charges. Puis c'est ça qu'on veut que ça fasse. Erreur, faites attention à ça. Parce qu'avant tout, c'est important de consolider comment on fonctionne actuellement et qu'est-ce qu'on va vouloir optimiser. Donc, dans le jargon Lacoste, évidemment, on appelle ça de faire un peu cet audit-là de vos processus internes, donc de dresser l'état actuel, de faire le as-it. C'est comme ça qu'on le nomme. Donc, d'effectuer une bonne analyse de vos processus, de cartographier les processus dans l'entreprise. Donc, encore une fois, le fameux lead to catch. Donc, vraiment, la demande entrante, est-ce que c'est un courriel, c'est un téléphone, avec plus de téléphone que de courriel? Faites-vous des initiatives marketing, publicité, trade show? Faites-vous de la prospection? Y a-t-il des reps qui vont sur la route, cogner à des pas pour aller offrir différents produits, faire des visites d'usine pour être capable de dire, hey, moi, je suis capable de stamper telle pièce. Moi, je suis capable de répondre à tel besoin ou de la signer. Donc, tu sais, faites-vous cette prospection-là. Puis après, ben une fois que le lead rentre, donc hey oui, il y a une demande d'intérêt, qu'elle provienne du web ou qu'elle provienne d'une prospection humaine traditionnelle, de quelle façon on gère présentement à l'interne? Oh, ben chaque web a son calepin en ce moment, puis il gère un peu ses leads sur calepin. OK, pas de stress. Puis après ça, ben après, on a un fichier Excel un peu combiné, puis tout le monde un peu gère à leur façon. OK, parfait. Là, ben, comment l'information est rentrée dans le fichier Excel? Qu'est-ce que vous rentrez comme information dans le fichier Excel? Comment vous effectuez vos suivis? Là, bref, on pourrait rentrer en détail dans chacun des processus. Je le ferai pas là. Ça pourrait faire l'objet d'un podcast complet. Mais juste vous donner une idée qu'on part vraiment de l'état actuel du fameux prospect qui va rentrer dans l'entonnoir jusqu'à temps qu'il y a une soumission, par exemple, qui est signée, un PO qui est reçu. Puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, là, il y a un compte commande qui est généré dans le système opérationnel. Ouais, on facture-tu 50% au début? Non, mais là, peut-être juste à la livraison. C'est important. Fait qu'on vient cartographier ces processus-là. Puis des fois, on pose des questions en faisant cette étape-là. Puis, on se gratte la tête. On pensait que c'était simple. Mais finalement, c'est comme complexe. Puis, on n'a pas nécessairement la réponse parce que c'est la règle du pouce. Tout le monde fait un peu ce qu'ils veulent. Oups! Là, on identifie les silos. Là, on identifie que la donnée n'est pas nécessairement rentrée dans un système, mais elle est plutôt manuscrite. Puis là, ben, en faisant ce travail-là, on est capable de venir identifier plus facilement des recommandations basées sur un processus non optimisé, basées sur une technologie actuelle qui manque de fonctionnalités pour aller à un autre niveau, pour vraiment venir prioriser, si on veut, certaines initiatives. Puis avec ça, ben là, on a un méchant bon plat de match pour dire, regarde, ça, on est automatisé, ça, on est numérisé. Puis là, c'est là où on va parler des différentes technologies. Donc, c'est bien beau de faire une carte des processus, mais après, c'est aussi son interaction avec les technologies, dont le fameux CRM qui va venir appuyer cette démarche-là, RevOps, énormément par la gestion de la relation client, mais par les initiatives marketing, par la gestion des opportunités, puis aussi par le service après-vente qui va revenir par la suite. Puis après, ben, tu as différents modules. Hein, tu sais, c'est qu'est-ce qui va être fait dans telle fonctionnalité, dans tel module. Puis après, oh, moi, j'ai besoin d'un configurateur de produit. Bon, est-ce que celui dans le CRM est adéquat ou là, faut sortir un peu de la branche, les réintégrer d'autres technologies. Donc, ça va vraiment, si je peux résumer, là, faire cet état actuel-là est essentiel, souvent négligé. Puis c'est un bon travail qui est fait, c'est un bon livrable que vous ressortez avec. Puis vous faites comme, oh, OK, parfait. Puis là, on vient prioriser notre démarche d'implantation par la suite. On vient prioriser les différentes phases de projet en fonction des priorités.
Je voulais donner une analogie. C'est comme si on voulait... Pensez à votre équipe, vous êtes à Montréal, vous voulez vous rendre à Québec. Il y a 10 personnes qui partent de Montréal à Québec, puis il n'y a pas d'indication claire ou de standardisation de où passer. De bonnes chances que probablement tout le monde devrait à peu près se rendre à Québec, mais il y en a qui vont passer par la 20, d'autres par la 40, d'autres qui vont arrêter dans une petite ville pour manger, peu importe. Mais là, on se rend compte que tout le monde fait quelque chose de différent au bout de la ligne. Il y a rien d'identique, puis c'est super difficile d'optimiser quelque chose qui n'est pas identique, que chaque personne y va un peu selon sa créativité, puis selon son vibe la journée, comment il fonctionne. Et là, on se rend compte qu'il y a vraiment des trous à des endroits. Fait que cet aspect-là de cartographie et de standardisation, on pense souvent en tant que dirigeant que c'est fait, c'est réglé, que c'est clair, mais quand on tombe dans un audit comme qu'est-ce que vous autres vous faites, puis que vous êtes spécialisé là-dedans dans ce bout-là là, au niveau RevOps, ben, mon Dieu que ça l'enlève du flou, puis mon Dieu que ça nous montre des endroits où qui sont insoupçonnés. Tu vois, on sait pas ce qu'on sait pas non plus. Puis des fois, on pense que les autres savent ce qu'on sait. La réponse, c'est non. Donc, c'est impressionnant souvent ce genre d'audit-là, ce que ça va ressortir, surtout à cette étape-là de cartographie puis de s'entendre sur une standardisation par la suite.
Ah, tout à fait, tout à fait. Puis c'est souvent négligé aussi comme étape. Puis j'ai même une anecdote vraiment intéressante. En début septembre, Anthony, mon collègue et moi, on était à l'événement Inbound, un événement organisé par HubSpot. Donc, c'est l'événement annuel de HubSpot, qui est une technologie CRM, entre autres, là, bien populaire à côté de Salesforce. On peut les comparer souvent. Puis, lors de Inbound, il y avait une belle conférence sur une étude de cas. Donc, c'est Connor Jeffers qui donnait cette conférence-là de chez Aptitude 8, une firme RevOps, un peu comme la nôtre, à vrai dire, aux États-Unis, qui interviewait en fait une étude de cas avec Uber Freight, qui est quand même une grosse compagnie qui vient récemment aussi de faire l'acquisition de Transplace, okay, qui est quand même une autre grosse compagnie, qui parlait justement de l'étude de cas, un cas à succès, de cette migration-là entre des différentes technologies comme Marketo et Pardot. Donc, Pardot était utilisé par Uber Freight et Marketo était utilisé par Transplace. Puis, ils voulaient utiliser le HubSpot Marketing Hub avec le Sales Hub et tout, donc les différents modules du CRM. Donc, on parle ici vraiment d'une migration de base de données et d'optimisation des processus automatisés. Évidemment, là, je suis dans un contexte d'entreprise multinationale, donc de très grande entreprise. Donc, il y a une complexité derrière la migration de base de données sans brimer les automatisations actuelles, puis sans mettre non plus l'entreprise ben pas à terre, mais sur un stop, si on veut, au niveau opérationnel. Donc, il y avait quand même une complexité. Ça a été un franc succès pour passer un peu cette étape-là d'étude de cas. Par contre, Connor Jeffers a mentionné, il y a eu un élément quand même qui aurait pu mieux faire. Puis ça, c'est pas nécessairement faute de la firme, c'est pas nécessairement juste faute de l'entreprise. C'est dans la démarche globale, parce que des fois, tu as des échéanciers très, très, très serrés à respecter. Mais il mentionnait entre autres que la stratégie dans un projet d'implantation est souvent sous-estimée. Puis là, quand on parle de stratégie, c'est un peu dresser l'état actuel dans le but de voir vraiment qu'est-ce qu'on va optimiser. Puis on tombe souvent trop rapidement dans l'état souhaité, comment je veux être. Puis c'est là où des fois, ça sème un peu le chaos quand on tombe tôt dans le to-be, parce que là, on a peut-être certains preneurs de décisions qui vont dire, moi, c'est comme ça que je veux que ça fonctionne, mais dans le concret, dans les utilisateurs de la plateforme, ça n'a pas nécessairement été pris en compte. Fait que là, il y a un petit clash, si on veut, dans l'utilisation, dans l'adoption de la technologie. Donc, il y avait cette mention lors de cette conférence-là, puis je l'ai noté, que souvent, de faire un pas de recul, même si c'est un petit peu plus long dans la démarche, faites-le, de faire cet état actuel-là, d'établir une bonne stratégie, puis après, tomber dans le design de l'état souhaité, ça va faciliter justement l'adoption et l'adhésion à une nouvelle façon de faire, puis souvent à une nouvelle technologie qui va être implantée.
Donc, on vient de parler de l'aspect de standardisation des processus. Deuxième pilier, c'est l'intégration des technologies.
Totalement. Donc, une fois que ça, c'est fait, évidemment, c'est quand même un travail qui est fait de façon exhaustive. Donc, c'est important d'aller établir vraiment les bons processus. On tombe ensuite dans l'intégration des technologies. Donc, c'est souvent là où on va tomber aussi dans le fameux to be, donc l'état souhaité de design de solution en fonction de la solution qu'on va vouloir implanter. C'est quoi les fonctionnalités? C'est quoi les modules qu'on va vouloir implanter? Donc, c'est là où ça joue un gros rôle dans la démarche RevOps d'une entreprise parce que le RevOps, je le rementionne, les trois grands piliers, tu as la standardisation des processus, l'intégration de technologies et la mobilisation de lui-même à opérer, si on veut, la technique des process dans une entreprise. Donc, lorsqu'on tombe en intégration de technologies, c'est là où il faut quand même suivre une démarche qui est structurée. Donc, de pas tomber tout de suite en développement custom ou en intégration, mais de bien évaluer les processus optimisés qui vont être intégrés à la technologie. Puis en parallèle, c'est là aussi où on va venir même former certains utilisateurs. Donc, on a brimé un peu la façon dont on implante le projet technologique chez Lacoste. Au lieu d'attendre à la fin pour venir former les utilisateurs de la plateforme puis dire, ben voilà la nouvelle plateforme, puis vous avez été dans le néa pendant 6 mois, puis là, ben voici la façon de faire. On vient former en fait, le premier atelier avec le design de solution qu'on fait, on vient former les utilisateurs, on fait un walkthrough de la plateforme, puis on montre vraiment, regarde, voici les modules, puis on vous encourage à même venir peupler l'information, essayer des choses. Dans tous les cas, on est capable de réinitialiser la base de données sans aucun problème si jamais il y a eu des choses qui ont été faites dedans. Puis nous, on travaille en parallèle dans le développement. Ce qui fait que l'adoption puis les différents utilisateurs clés de la plateforme sont pris en compte dès le départ dans le projet d'implantation. Parce que souvent, la réticence au changement et tout, c'est quand même un élément important. Donc, de venir vraiment impliquer les gens, les parties prenantes dans un projet d'intégration de technologie d'emblée est quand même assez essentiel. Donc ça, c'est un peu dans la démarche d'implantation de technologie. Puis ensuite, bien évidemment, c'est de comprendre aussi l'utilisation des différentes technologies en fonction des processus. Fait qu'on avait mentionné le CRM, on avait mentionné le ERP. Dans certains cas, on a le FMS, le Field Service Management System. Donc, des entreprises, par exemple, qui vendent une machine puis qui assurent l'installation ou la maintenance de cette machine-ci, souvent, on va avoir des pièces, des fois un inventaire, puis des techniciens sur la route. Donc ça, c'est un autre système qui peut venir connecte à son écosystème technologique. Donc, dans un projet d'intégration de technologie en phase 2, c'est là où on va assurer l'interopérabilité, un beau mot qui va signifier en fait l'interconnexion des différents systèmes ensemble, qui est essentiel dans un projet d'intégration de technologie, qui peut être phasé, encore une fois, baby steps dans un projet d'implantation, mais faut comprendre que ces technologies doivent se parler, puis en amont, le travail de choisir des technologies modernes ou un partenaire qui va comprendre qu'il y a une intégration entre deux systèmes est essentielle, comme par exemple chez OpenMind, vous le faites bien, ben ça, dans un projet d'implantation technologique associé à des processus bien standardisés, ben à ce moment-là, on n'a pas de red flag plus tard dans un projet d'implantation.
Et là, si je comprends bien, dans un audit que vous faites chez Lacoste, vous allez justement cartographier les forces, les faiblesses des différentes technologies, voir qu'est-ce qui manquerait comme fluidité d'information entre les différents systèmes. Ça fait partie de l'offre de base que vous offrez chez Lacoste.
Exactement. Donc, tu sais, en standardisant les processus, puis en cartographiant les processus, on est capable de recommander qu'est-ce qui serait dans un CRM, puis quel type de CRM va venir supporter telle fonctionnalité, si on veut. Puis après, ben, tu sais, on n'est pas des experts ERP, on n'est pas des experts FSM, c'est les field service, ni comptabilité. Par contre, il existe des technologies modernes, donc on est capable quand même de recommander, vu de haut, certaines technologies qui existent. Mais encore une fois, on travaille avec des partenaires à ce moment-là qui sont experts dans des fois des sélections technologiques opérationnelles. Puis souvent, il y a quand même une complexité plus grande dans le choix d'un système opérationnel tel qu'un ERP. Chez le manufacturier, selon le modèle d'affaires, si on fait, par exemple, des produits custom, là, il faut comme un CPQ, donc un Configure Price and Quote System, souvent intégré à notre système opérationnel, chose qu'on fera pas nécessairement dans le CRM. Donc, le CRM est un petit peu plus très bon pour le manufacturier, très bon aux entreprises de services ou de SaaS. Généralement, un HubSpot, un Salesforce, Zoho, pour pas le nommer, sont des excellentes plateformes pour supporter n'importe quel type d'entreprise. Lorsqu'on tombe dans les systèmes opérationnels, souvent, il y en a des mieux définis pour certains modèles d'affaires. Donc, à ce moment-là, dans notre processus d'audit dans un premier temps, c'est là où on vient identifier les éléments essentiels à ne pas négliger dans un projet d'intégration qui va suivre par la suite pour pas, encore une fois, frapper un mur puis dire finalement, ce choix technologique-là, c'est pas le meilleur pour venir s'intégrer avec. Donc, quand même, qui est assez important à faire en passe un.
Donc, pilier 1, standardisation des processus. Pilier 2, intégration des technologies. Maintenant, pilier 3, ce serait la mobilisation de l'humain.
Tout à fait. Puis qui est probablement un des plus grands piliers parce que c'est là où souvent ça clash. Donc, de là où je reprends un peu notre démarche d'implantation de tech, on vient impliquer l'humain souvent même en phase 1 de projet d'implantation. Mais généralement, c'est là où il y a le plus de clash, qui est le plus important. Donc, l'alignement des différentes équipes, puis de savoir comment ils opèrent en interne, puis de les mobiliser d'entrée de jeu dans une démarche de transformation numérique, peu importe le type de technologie que vous implantez ou de la façon dont l'entreprise va gérer. Donc, c'est quand même une étape qui est parfaite, une étape qui est un segment qui est extrêmement important. Puis comme vous auriez pu voir, tu sais, c'est pas nécessairement des étapes 1 qui viennent se joindre une après l'autre. Oui, on commence toujours par la standardisation des processus, mais ce que j'ai pas mentionné, c'est que c'est pas un one-shot. Donc, la standardisation des processus, c'est pas on le fait une fois, on le fait plus jamais. T'sais. C'est important de toujours revoir la façon dont on le fait, revoir si notre écosystème technologique est bon, revoir si nos humains, nos ressources internes, nos membres d'équipe adhèrent ou il y a peut-être des modifications parce que c'était bien beau sur papier, mais peut-être sur pratique, ça doit être optimisé. Donc, de là, il y a des petites façons de faire qui sont extrêmement bons à prendre en compte pour mobiliser l'humain derrière cette transformation-là de RevOps interne. Donc, tu sais, pour nommer quelques idées, ben évidemment, on recommande toujours d'avoir des rencontres internes sur la vision de l'entreprise, comment chaque rôle et département contribue à la croissance de l'entreprise, impliquer les membres de l'équipe dans le processus d'innovation, pas juste avec une firme qui va vous aider à implanter le RevOps, mais aussi sur certains procédés internes, sur certains achats de matériel, comment on peut innover tous ensemble. Ça part du leadership avec une conscience positive. Donc, ça, encore une fois, qui est souvent négligé. Quand ça vient d'en haut, que rien va bien puis qu'on veut rien changer dans l'entreprise, généralement, c'est difficile d'avoir changé les façons de faire. Donc, faut que ça vienne d'en haut, puis il faut impliquer aussi les membres de l'équipe au complet dans cette démarche-là. Puis, évidemment, favoriser la collaboration interdépartementale. Donc, souvent, oh non, moi, c'est ça que j'ai à faire, puis je travaille en silo. Non, ultimement, le RevOps, ça va bien aligner les différents départements, donc par l'encouragement du leadership, puis justement par des rencontres internes qui viennent bonifier, si on veut, le pourquoi on fait cette démarche-là, ça va aider à mobiliser l'humain à travers la différente démarche d'implantation RevOps.
Et c'est tout le temps plus facile à dire qu'à faire. Par contre, les indicateurs clés que chacune des équipes suivent ou doivent atteindre en livraison, la démarche de RevOps, c'est un peu d'unifier tout ça, là. C'est mon objectif à moi est interrelié avec le tien, même si on est théoriquement dans des équipes différentes qui deviennent une seule et même équipe de RevOps. Donc, d'unifier les livrables, unifier les indicateurs à suivre fait qu'il y a un petit peu moins de silos. Puis là, c'est un peu plus facile d'amener tout le monde dans la même démarche puis vers le même but commun au bout de la ligne. Là. Donc, de réussir à faire mieux collaborer les humains dans l'organisation.
Oui, puis essayer de poser des questions. Avez-vous des irritants? Y a-t-il des choses qu'on pourrait faire mieux dans l'entreprise? Puis généralement, quand les irritants puis les problèmes viennent de plein de personnes ensemble, puis dépendamment de la grosseur de votre entreprise puis le type de rencontre que vous faites pour venir cibler ces irritants-là, faites-les ressortir. Puis à un certain moment donné, ah ouais, moi j'ai pas de visibilité sur l'inventaire. Moi, j'essaie de vendre, mais je sais même pas ce qui nous reste. On a des délais de livraison. Puis moi, je dois gérer la frustration de nos clients. Dresser les irritants, dresser les problématiques que vous avez, puis après ça, on va venir les adresser avec une firme qui va venir vous appuyer, puis après, c'est bien plus facile de dire, bon, parfait, on va venir cibler ces priorités-là dans une démarche RevOps. Ben là, boum, généralement, l'humain interne va se sentir impliqué dans la démarche parce qu'on vient adresser une problématique qui est un irritant, encore une fois, de différents degrés. Mais n'hésitez pas à poser des questions puis venez dresser cette liste-là d'irritants. En partant d'un problème, généralement, on va être en mesure de venir l'optimiser. Ça prendra le temps que ça prend, mais c'est quand même assez essentiel pour même la rétention de main-d'œuvre. Hein? On peut travailler dans un environnement qui est le fun, puis on veut gérer une bonne expérience client parce que c'est encore plus le fun de servir un client heureux qu'un client est satisfait. Puis c'est encore bien plus le fun d'être proactif puis être productif dans nos outils de travail avec des processus standardisés. Donc, on pourrait même parler de l'expérience employée interne qui va découler d'une démarche RevOps qui va satisfaire le client et les opérations internes de l'entreprise.
Je trouve ça très pertinent ce que tu ajoutes comme volet par rapport à l'expérience interne pour les employés parce que ce sera pas de cachette, surtout dans, entre autres, les gens qui nous écoutent dans le manufacturier, c'est toujours un défi la main-d'œuvre, peu importe les entreprises. Donc, si on est capable de donner quelques points de bonheur supplémentaires à notre staff, à nos équipes, ça peut faire une grosse différence à la fin de l'année dans les points du bottom line au niveau des états financiers et de la satisfaction client là, au bout de l'année.
Ah, tout à fait.
Vous êtes spécialisé là-dedans, Simon, donc vous avez sûrement des études de cas ou des témoignages de clients que vous avez accompagnés. Sans lever le couvert là, de la confidentialité. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de certains cas que tu as vu passer. Là.
On a oui, absolument. Il y a quand même une belle entreprise récemment qui a débuté un mandat avec nous, qui avait déjà, puis ça, encore une fois, il y en a qui vont pouvoir dire, qui vont pouvoir peut-être se refléter un peu dans ce cas-là, qui ont déjà un bon CRM, ils ont déjà HubSpot, qui fonctionne très bien, qui a déjà été implanté. Mais c'est une entreprise qui a vécu une grosse croissance manufacturière, fabrication de machinerie, puis il y a plusieurs divisions, puis ben se sont établis dans plusieurs pays. Donc de là, l'implantation de la technologie a déjà été faite, mais ils n'ont pas nécessairement aligné tous les départements ensemble dans la technologie. Puis la façon de faire, étant donné qu'il y a eu quand même une acquisition derrière, n'était pas pareil d'une division à l'autre. Donc là, manque d'efficacité, manque de visibilité sur l'information, puis on revient au tableau de bord. Donc, il y avait quand même de grands irritants. Donc, à la place de tout de suite cibler, ah ben là, je veux tout de suite optimiser ma technologie, on est en train de faire un beau mandat de réingénierie sur le processus RevOps. Donc, on remet à l'état actuel sur papier. Donc, il y a plusieurs choses qui fonctionnent très bien, mais il y a plusieurs choses qui ne sont pas nécessairement optimisées à l'interne puis qui ne se parlent pas entre départements. Donc, dans ce cas de projet-là, ben là, c'est beaucoup d'ateliers. On va parler de la pure consultation, mais théoriquement, c'est après la suite logique, c'est de venir prendre ces processus-là qui ne se parlent pas entre eux, puis de venir les intégrer de façon standardisée à leur écosystème CRM HubSpot actuel, qui ne communique pas encore au système ERP, donc qui va être phasé en phase 2, parce qu'étant, encore une fois, je le mentionne en titre de conseil, attention aux gros projets phase 1. Faut vraiment faire attention à ça. C'est des grosses bébites qui peuvent être néfastes pour la viabilité de l'entreprise. Donc, on souhaite toujours de dresser un premier MVP en premier lieu. Donc, de reprendre les processus, puis après de venir phaser un projet d'implantation. Donc, dans un premier temps, optimiser ces processus-là qui étaient différents d'un pays à l'autre, les standardiser, les amener dans la plateforme HubSpot. De là, projet 2, venir intégrer leur système ERP avec les processus du CRM. Puis après, ben, il va y avoir une phase 3, une phase 4 avec d'autres technologies connexes. Mais finalement, c'est un beau projet qui est en cours quand même. Donc, tu sais, pensez pas RevOps automatiquement technologie. Pensez RevOps dans un premier temps. Il y a un gros travail de processus qui est fait. C'est un bel exemple, en fait, que je mentionne là, d'une belle entreprise avant de trop penser tech, même s'ils en ont déjà une en place, qui revoit leur processus actuel. Puis, une autre étude qu'on va aussi montrer au salon MPA, belle entreprise qui fabrique des véhicules industriels électriques, qui avait un ERP qui travaillait un peu mode CPQ, stand-alone de leur côté, pas de CRM en place, donc fichier Excel, suivi manuscrit. Donc, dans leur cas, il y avait quand même plusieurs choses qui devaient être faites. On est venu scoper le projet dans un premier temps avec l'Audi. Puis dans leur cas, ils vendent pas directement aux entreprises. Donc, ils vendent via un réseau de concessionnaires qui amène une autre belle complexité d'un point de vue configurateur de produits puis relation client entre le représentant des ventes et le concessionnaire. Puis on gère beaucoup à travers les États-Unis puis même à travers des municipalités qui achètent via le distributeur, etc. Donc, beau mandat encore une fois de standardisation du processus, la demande entrante, la gestion de cette commande-là en lien avec le ERP parce qu'il y a une configuration de produits qui est faite en parallèle. Donc là, on a un bel écosystème entre un configurateur de produits, le CRM qui est HubSpot et puis le ERP qui est Genius ERP. Donc, un bel écosystème dans lequel on vient vraiment fluidifier le processus de commande d'un concessionnaire avec la relation du rep. Qui est une configuration interactive connectée au ERP. Donc, on a l'inventaire en temps réel pour faire justement la prise de commande qui est fluidifiée. Donc, on a des gains significatifs en temps pour faire une solution. On a inévitablement une visibilité sur ce qui est disponible, ce qui n'est pas disponible. Puis, à ce moment-là, bon, on vient améliorer l'efficacité opérationnelle, mais aussi l'expérience client de bout en bout. Donc, ça, c'est un autre beau projet sur lequel on est avec plusieurs différentes technologies. Puis, on parlait d'interopérabilité, mais c'est un bel exemple là, à ce niveau-là.
Et là, j'entends déjà les auditeurs qui nous écoutent se poser deux questions dans leur tête. Combien ça coûte? Combien de temps ça prend à faire tout ça? Pour le côté combien ça coûte, je vais peut-être laisser les gens te contacter directement sur LinkedIn parce que c'est quand même spécifique, j'imagine, à chaque entreprise, à moins que tu aies des ranges de prix que tu sois prêt à dire publiquement. Mais le côté délai, là, quelqu'un qui veut avancer dans une démarche d'audit avec une entreprise comme la tienne, on parle d'une échelle de temps de combien là, de temps en calendrier là, qu'il faut dédier, du moins pour se dire, je démarre un audit puis j'ai un rapport à ce moment-là qui me permet de passer à l'action.
Une bonne question, puis nous, on a une bonne démarche structurée à ce niveau-là. On est quand même capable de répondre de façon assez concrète. Tu sais, généralement, on veut pas être sur des projets en haut de 6 mois. De notre côté, après, là, je parle de phase 1 de projet. Donc, généralement, un audit, on est aux alentours de 6 à 8 semaines pour compléter l'état actuel de l'entreprise. Ce qui va venir faire varier le temps, inévitablement, c'est la mobilisation des équipes internes, des fois chez l'entreprise. Des vacances, des fois c'est même respecter certains fuseaux horaires, des fois quand on est dans d'autres pays aussi, puis il y a des divisions. Donc c'est sûr et certain que ça peut venir faire varier un peu le temps, mais généralement on s'engage à se mobiliser puis à compléter l'audit en dans de 6 à 8 semaines. Donc on peut voir ça comme un premier 2 mois maximum. Une fois que ça c'est complété, puis on tombe en phase d'implantation. Puis la raison pourquoi on essaie de faire des projets en dans de 6 mois en phase 1, c'est qu'on veut un projet CRM viable, qui est le déployer le plus rapidement possible pour assurer l'adoption, puis ensuite optimiser et ajouter des couches qui vont s'ajouter au fur et à mesure, qui ont été identifiées initialement en audit, sans aucun problème. Puis généralement, on est dans des projets d'implantation qui vont varier à peu près de ça, de 3 à 6 mois. Fait que des fois, ça peut être des projets qui peuvent durer 8 mois parce que, bon, en priorité numéro 1, on veut quand même une intégration custom avec un système comptable, etc. Mais généralement, on essaie de s'engager dans des projets de cette envergure-là, mais une transformation numérique, puis une intégration de technologie, mais ça peut être un projet en fait que jamais de fin, parce qu'on optimise, on ajoute des modules, on paramétrise, on change des fois notre façon de faire. Donc, il n'y a jamais de fin. Mais pour avoir un go live intéressant sur les priorités de programme, on essaie de s'engager sur un premier blitz de 6 mois, comprenant qu'il y a une évolution 6 mois après, donc sur 1 an, on est capable de scoper une bonne première phase 1 et 2.
Et pour l'aspect tarif, prix et compagnie, j'imagine le meilleur moyen de te rejoindre via LinkedIn, par courriel, quel serait le meilleur moyen pour les gens là, de...
Les deux, je suis assez actif, puis je réponds assez rapidement. Donc, je suis assez à l'affût de mes courriels, appels téléphoniques et LinkedIn aussi, sur lesquels je suis quand même assez actif. Donc ça, vous pouvez communiquer avec moi, ça va me faire plaisir de vous montrer la démarche RevOps que nous, on applique chez les entreprises industrielles, manufacturières. Le modèle d'affaires, vous connaissez très bien. Puis, on pourra parler de prix à ce niveau-là. Mais tu as mentionné en prémisse quand même un beau programme, Joe, sur le programme PECAN qui subventionne 90% de notre audit RevOps, étant donné qu'on est accrédité dans le programme. Il y a certaines entreprises qui décident de le faire avec d'autres organisations qui vont faire une revue complète de tout leur processus, peut-être un peu plus macro, qui est aussi un bel exercice à faire. Nous, notre produit, si on veut, notre livrable, est vraiment axé de façon très concrète sur la cartographie des processus RevOps. Donc, ça va dépendre des priorités des entreprises.
Et le PECAN qui est encore là pour quelques trimestres devant nous, si vous ne l'avez pas encore utilisé dans votre organisation, c'est un très beau cadeau que le gouvernement fait pour subventionner des entreprises qui peuvent avoir un impact dans vos organisations, dont celle à Simon. Donc, si vous voulez voir sur LinkedIn, c'est Groupe Lacoste, LAKHOS et Simon Lemire avec un seul R dans son nom. Et on va mettre également les notes dans les descriptifs de l'épisode si vous voulez contacter directement Simon. Quelque chose à rajouter, Simon, avant qu'on termine l'épisode d'aujourd'hui?
Ben écoute, non, Joe, ça a été un plaisir. Il y a beaucoup d'éléments à discuter. J'aurais pu parler pendant quelques heures, sans aucun doute, sur plein d'autres éléments qui me pop. Mais essentiellement, on a fait un beau topo. Puis je pense que en titre de résumé rapide, c'est, je pense, la standardisation des processus dans une démarche RevOps. Et l'élément à garder en tête et à effectuer au sein de votre entreprise, parce qu'après, il en existe des technologies, il en existe des fonctionnalités. Soyez plus axés sur vos process, puis de quelle façon après on va venir les adresser, les outils avec la technologie. Ça serait vraiment le conseil que je mentionnerais. sans oublier d'impliquer les membres de l'équipe à travers cette démarche-là qui ne s'arrête jamais. Donc, encore une fois, qui est constamment en optimisation, en amélioration continue. Donc, Joe, là-dessus, je te dis un gros merci de m'avoir invité sur le podcast. Puis, ça me fait plaisir de participer à nouveau là pour adresser d'autres sujets.
Merci beaucoup, Simon, pour ta générosité, pour nous expliquer ça beaucoup plus en détail. Et tu parles de standardisation de processus. C'est toujours plus facile quand c'est quelqu'un de l'extérieur qui s'y connaît, qui rentre dans nos organisations pour nous décoller le nez de l'arbre et apporter un petit peu de ce qui se passe dans l'industrie là, pour l'infuser dans nos organisations. Donc, je recommande fortement Simon. Je n'ai aucune commission sur peu importe le mandat, je veux vraiment le dire, mais pour avoir parlé longtemps avec Simon là, dans les dernières semaines, je vois leur sérieux, je vois leur démarche et je vous les recommande les yeux fermés. Donc, voilà. Et que je me répète, je n'ai aucune commission dans ce discours-là. Fait que Simon, merci encore de ta générosité, de nous éduquer un peu plus sur ce qu'est le RevOps et l'impact que ça peut avoir et surtout comment procéder à une démarche là, dans le côté manufacturier. Donc, à tous ceux qui nous écoutent, je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.
À bientôt.
Voici les quatre éléments principaux que je retiens de ma discussion avec Simon de chez Lacoste. Premièrement, le RevOps apporte des gains significatifs selon BCG, soit un minimum de plus 10 % sur la productivité des ventes, plus 100 % sur le retour sur investissement du marketing numérique et plus 15 % sur la satisfaction des clients. Deuxièmement, les trois piliers du RevOps sont, selon les dires de Lacoste, 1. Standardisation des processus, 2. L'intégration des technologies et 3. La mobilisation des humains. Ensuite, la démarche RevOps phase 1 se fait généralement en moins de 6 mois et avec certains consultants comme la firme Lacoste, cet outil peut être subventionné jusqu'à un maximum de 90 % par le programme PECAN du gouvernement du Canada. Et dernièrement, mon hypothèse est que toute bonne entreprise qui se respecte devra un jour ou l'autre adopter la philosophie du RevOps pour rester pertinent dans son marché. Donc, aussi bien procéder plus tôt que tard et du même coup profiter des gains plus rapidement que les autres. Voilà, merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Nous produisons ce contenu gratuitement pour vous. Notre récompense est votre partage, votre abonnement, commentaire ou même un 5 étoiles. En ce sens, si cet épisode vous a plu, merci de prendre quelques secondes pour le partager à quelqu'un dans votre entourage ou à vous abonner. Je vous invite à continuer la discussion sur LinkedIn. J'ai le plaisir de discuter avec plusieurs d'entre vous chaque semaine. Encore une fois, mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. À la semaine prochaine!